Enséñame a amar a tu enséñame a imaginar como solo lleva tu sol, enséñame a amar a tu
chers amis, bonjour. Vous êtes à l'écoute d'un programme de méditation biblique présenté par Jacques Marchal. Si vous étiez en train de préparer l'itinéraire d'un voyage et que vous ayez le choix entre une route large et facile et une autre étroite et tortueuse, il va de soi que vous choisiriez la première. Mais supposons un instant que cette belle route passe par une ville dans l'air de laquelle flottent les miasmes ayant déjà tué nombre de personnes, ou encore une ville où le crime prédomine au point de risquer de vous faire rançonner, voler et de mettre votre épouse en danger. Par ailleurs, imaginons que la petite route difficile, étroite, aux nombreux virages aboutisse dans une zone paisible, où votre famille et vous seriez traités avec courtoisie, dignité, respect. La destination finale de ces deux routes pourrait-elle modifier votre décision quant à la voie à suivre ? Dans la vie, nous sommes tous des voyageurs qui nous rendons dans l'éternité. Il existe également deux routes, deux destinées, mais une seule éternité. Le Fils de Dieu dit un jour « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. » Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui la trouvent. Voyons tout d'abord le contraste existant entre ces deux destins. Le chemin étroit mène à la vie, et le large conduit à la perdition. Cette différence fondamentale devrait à elle seule être suffisante pour que l'individu se mette à envisager de faire un choix ultime et vital. Le chemin large et la magnifique grille qui en permet l'abord sont synonymes de voyage agréable. Mais pourtant, son issue fatale est là pour effrayer l'âme sincère. Ce mode d'accès mène à un gouffre sans fond. Quelle est la signification biblique du terme « perdition » ? Il ne s'agit pas d'une extinction de l'être à proprement parler, mais d'une perte certaine du bien-être éternel. En Jean chapitre 3 et verset 16, nous retrouvons cette idée maîtresse. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Les termes « destruction » et « perdition » utilisés dans le langage biblique ne signifient pas une annihilation ou une cessation d'existence, nous le comprenons bien. Ce fait est établi non seulement par l'examen de la définition du mot original traduit en français par « perdition », mais aussi par l'observation de l'usage qu'en fait Jésus dans ses enseignements. Il déclare notamment « on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent ». Et les outres sont perdus. Rien ne permet de croire que le Fils de Dieu utilise le mot périr dans le sens d'arrêt de vie. Il veut dire que les outres perdent leur utilité. Elles existent toujours, malgré qu'elles soient déchirées. L'homme qui périt ne cesse pas de vivre, mais en cours la perte de la vie éternelle. Il sera, au jour du jugement, livré à une misère éternelle. Notre Seigneur explicite encore davantage le mot lorsqu'il dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. L'homme peut détruire le corps, mais pas l'âme. » Il n'empêche que cette dernière peut périr en enfer. Cet endroit est décrit dans la Bible par des mots qui donnent le frisson. Entre autres, le feu éternel, le feu qui ne s'éteint point. L'étang ardent de feu. Le feu de l'enfer ne sera jamais étouffé par les doctrines ou les théories niant la réalité de cette fournaise éternelle. Le destin de ceux qui empruntent le chemin spacieux se trouve sans doute possible dans ce feu qui ne s'éteint jamais. C'est un futur de souffrance, de honte et de tragédie sans fin. Au contraire, ceux qui empruntent le chemin resserré sont voués à une toute autre existence future que Jésus définit par le terme « vie ». De même que perdition indique la perte de tout ce qui vaut la peine d'être vécu, quoique n'étant pas un anéantissement, le mot vie sous-entend bien plus qu'une existence sans fin. Vie indique plus une qualité qu'une longueur de temps. L'apôtre Paul explique cette nuance. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Ce verset des Écritures décrit bien le jour du jugement, lorsque le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres, soit la vie, soit la perdition. La vie, dont il est sans arrêt question, inclut sans conteste l'immortalité. Lorsque Jésus-Christ reviendra, il changera nos corps vils en nous donnant une enveloppe formée à l'image de son propre corps glorieux. Paul affirme que le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Le corps charnel de l'être humain est mortel, et la Bible insiste sur cette vérité lorsqu'elle exhorte en ces termes que le péché ne règne pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ce corps destructible est sujet à la maladie, le vieillissement et même la mort. Mais, disent les Écritures, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. La vie éternelle est encore bien plus qu'une immortalité, pourtant déjà fantastique. Elle se déroulera dans la gloire et dans l'honneur. La gloire ou félicité poussée au paroxysme de vivre vraiment en présence du Seigneur des cieux et de la terre. L'honneur de se savoir connu de lui, accueilli par lui dans une demeure céleste éternelle, un endroit de pur enchantement, de paix éternelle, de joie incomparable, de satisfaction indestructible. Là, l'Éternel essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Pensez-vous que cette comparaison entre le chemin spacieux et la route resserrée devrait avoir une influence quelconque sur la voie à suivre par n'importe lequel d'entre nous? Chacun de ces chemins possède également une porte particulière. L'une est étroite, c'est-à-dire difficile à passer, et l'autre est large, et par conséquent, d'un accès aisé. Il est plus que probable qu'en spécifiant la dimension de ces portes, le Seigneur ait également voulu montrer le choix à faire par rapport à notre manière de vivre et à notre destinée. Ceux qui vivent dans le péché choisissent délibérément ce mode d'existence. Pour quelle raison devient-on alcoolique? En buvant des boissons alcoolisées. Pourquoi commet-on l'adultère? Parce qu'on l'a voulu ainsi. Certains sont des meurtriers, des voleurs, des escrocs, des menteurs, des obsédés sexuels. Pour quelle raison? Ils ont choisi cette ligne de conduite. Personne ne peut le nier. D'aucuns préfèrent la sobriété à l'ivrognerie. Ils aiment mieux rester sexuellement purs en satisfaisant leurs besoins biologico-psychologiques, soit dans le mariage, soit en réfrénant leurs instincts, en contrôlant leurs instincts. Au lieu d'assassiner, de voler, d'escroquer, de violer, ils choisissent de respecter la vie et la propriété d'autrui. L'être humain est bien moins victime de son hérédité et de son environnement qu'il ne l'est, pense-t-il, de sa privation de choix. Jésus n'a pas dit « Vous devez voyager par le chemin spacieux pour arriver aux enfers, car vous ne pouvez faire autrement. » Il s'est à l'inverse exprimé ainsi « Entrez par la porte étroite. » Il nous appartient de décider. Dieu a créé des hommes et des femmes assez intelligents que pour être capables de distinguer le bien du mal, le vrai du faux, la droiture de l'escroquerie, la justice de Dieu de l'infidélité envers lui. L'homme a été engendré de telle sorte qu'il puisse, s'il le désire, se conformer à la nature même de sa création. La façon dont il sera jugé s'inspirera de ce principe général, c'est-à-dire que l'Éternel rendra à chacun selon ses œuvres. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est nous qui décidons d'obéir à Jésus ou non. En nous conformant à sa volonté, nous entrons par la porte étroite. En continuant à le servir, nous poursuivrons le chemin qui conduit à la vie éternelle, car le Seigneur est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, dit la Bible. Ce dernier point présente une série de problèmes que je choisis de poser sous forme de questions qui toutes commencent par « Est-il possible ?» Est-il possible d'obéir à Jésus-Christ sans croire en lui? D'obéir à Jésus-Christ sans se repentir de ses péchés? D'obéir à Jésus-Christ sans la confession comme fils de Dieu? D'obéir à Jésus-Christ en rejetant son ordre d'être baptisé? Peut-on travailler avec zèle pour le Seigneur en refusant d'adorer Dieu régulièrement? Serait-ce là vivre selon la volonté de Dieu? Dernière question. Êtes-vous passé par la porte étroite et marchez-vous sur le chemin resserré? C'est à vous qu'il appartient de choisir et ce choix va déterminer votre propre destin. Il n'existe que deux manières de vivre et elles aboutissent chacune à une seule destinée, pas plus. Le chemin spacieux est celui du plaisir, du vice et de la remise au lendemain. Ceci semble résumer les caractéristiques de cette route qui conduit à la perdition en enfer. Les plaisirs qu'apporte le péché sont parfaitement à même d'obscurcir l'esprit d'innombrables personnes et de les faire glisser vers les tragiques conséquences qu'amène leur débordement. La Bible elle-même reconnaît qu'il peut exister un certain plaisir à pécher. Il y a évidemment le frisson, l'excitation et même la satisfaction qu'apporte l'iniquité. Mais combien de temps cela dure-t-il? Pour certains, l'espace d'un instant, pour d'autres, le temps d'une saison peut-être. Lorsqu'on se prend à réfléchir, on se rend assez vite compte que le jeu n'en vaut pas la chandelle. À quoi sert-il de se laisser griser ainsi par le plaisir limité du péché en privant ainsi notre âme de la paix, du but, bref, de la vie éternelle? Le chemin spacieux est encore celui de la perversion de ce qui est le plus précieux au monde, l'Évangile de Christ. Cette pratique prévalait déjà au premier siècle et n'a cessé de surprendre depuis. Paul, en écrivant aux Galates, s'exclame « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. » Notre monde est plein d'églises, de groupements, d'associations, dont les enseignements contradictoires et les scandales divers secouent le monde religieux. Tous ces pauvres gens sont passés par la large porte et cheminent sur le chemin spacieux qui les conduit à leur perte. Quelle tristesse! La charge la plus grave qui pèsera contre eux le jour du jugement et qui les concernera pratiquement tous sera d'avoir perverti son évangile en enseignant que l'homme peut être sauvé par la foi seule. L'évangile de Christ requiert des croyants la repentance de leurs péchés et le baptême qui est une immersion afin de recevoir le salut du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais au fait, peut-être avez-vous déjà choisi dès maintenant de passer par la petite porte et de commencer à cheminer sur la route resserrée. Dans ce cas, je puis me taire en vous disant bravo et à bientôt par courrier.
Alléluia, 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 alléluia.
Ce programme de méditation biblique vous a été offert par Jacques Marchal, qui vous l'a présenté. Mais qui sommes-nous? Les chrétiens qui ne portent pas d'autres noms, ils ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi est surtout le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ. Seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et de nos financiers à propos de ce qu'elle ne dit pas. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre, et je vous répondrai personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition. Sans engagement, écrivez à Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 31086, Toulouse, CEDEX, et je répète, Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 31086, Toulouse, CEDEX, France. Au revoir. À la semaine prochaine, même heure. Et que le Seigneur vous garde.
Alléluia, alléluia.